Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Clôture jeudi 12 mai dernier du forum Indaba Mining à Cape Town, en Afrique du Sud. La RDC a été représentée par le Premier ministre Samalou Kondé, qui a conduit une forte délégation à cette rencontre qui a duré 3 jours. Pays minier par excellence, la RDC s'est engagée dans une approche de gestion efficace de ses ressources naturelles. Et cela en intégrant la dimension de développement et transformation locale des minerais. Ces propos sont du Premier ministre qui s'est exprimé lors de ce forum. Il est revenu aussi sur l'important rôle que la RDC va jouer dans la transition énergétique étant le premier producteur mondial du cobalt. Quelle analyse faire du forum Indaba Mining? Quelle pourrait peut-être se retomber sur l'économie congolaise? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons Myriam Amena, elle est conseillère principale chargée du climat des affaires à la primature. Bonsoir Madame Myriam Amena.
Bonsoir.
John Cagnoni, qui est ici avec nous, ici au studio, il est vice-président de la Chambre des Mines à la Fédération des entreprises du Congo FEC à sigle. Bonsoir, monsieur John Sana Cagnoni.
Bonsoir, monsieur Guy Maté.
Et Jean-Pierre Okende, l'OSC, directeur des industries extractives au sein de l'ONG International Resources Matters et expert analyste sur les questions des mines en RDC. Bonsoir, Jean-Pierre Okenda, l'OSC. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, clôture le 12 mai de la 25e édition Forum Mining Indaba Cape Town en Afrique du Sud. À la tête d'une forte délégation congolaise, le Premier ministre congolais était dans une opération de séduction devant des milliers d'investisseurs présents à ces forums. Jean-Michel Samalou Kondé s'est dit conscient des nombreux défis, surtout sécuritaires, pour améliorer le climat des affaires. Au micro des journalistes présents à Indaba, il a tenu à rassurer les potentiels investisseurs en expliquant les efforts de pacification en cours. On l'écoute dans cet extrait choisi par Cynthia Bachizi Nabizana.
La stratégie dans la lutte pour atteindre cette sécurité totale, c'est d'abord bien sûr les opérations militaires que nous sommes en train de mener sur le terrain, mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies, notamment le développement des infrastructures. Ce développement des infrastructures va permettre d'avoir bien sûr plus d'accès, ce qui pourra permettre aux investisseurs d'être plus libre dans le travail d'exploration qu'il doit faire et d'accès aux différentes ressources minérales. Bien sûr, à côté de ça, il y a d'autres stratégies de réinsertion, surtout des personnes qui se démobilisent de ces groupes armés. Et vous avez raison de le dire, c'est le développement qui doit être aussi une réponse par rapport à l'insécurité. Ici, l'appel qui est fait, c'est que dans le travail de pacification que nous faisons, très vite, une fois que en même temps que nous travaillons sur les infrastructures, nous allons sécuriser les investissements qui pourront venir et permettre un développement rapide. Ça sera une réponse à la sécurité.
Myriam Amena, je rappelle que vous êtes conseillère principale chargée du climat des affaires à la primature. Qu'est-ce que l'on peut retenir du forum minier d'Indaba qui s'est clôturé jeudi dernier?
Moi, ce que je retiens essentiellement de l'édition 2022 de Mining d'Indaba, c'est que d'une part, cette rencontre reste un rendez-vous incontournable pour les responsables du secteur minier africain. Cette année encore, on entend un accent qui est mis sur cet objectif qui est effectivement, comme vous le disiez en introduction, de continuer à exporter non pas seulement du minerai brut, mais d'aller de plus en plus vers des produits transformés, ce qui permettra évidemment de développer nos économies localement.
La RDC est partie avec comme objectif ultime, n'est-ce pas, d'attirer des investisseurs dans les secteurs miniers. Et à ce stade, peut-on dire que cet objectif a été atteint, Madame Myriam Amena?
Alors, dire que l'objectif est atteint, moi je dirais, au-delà de ça, c'est que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est venu avec un discours très clair, très précis, avec l'honnêteté qui est la nôtre, c'était de dire que voilà, à aujourd'hui, on sait qu'on utilise uniquement 19% de notre potentiel aujourd'hui. Il y a une place pour les investisseurs. Le Premier ministre a lancé vraiment un appel aux décideurs, aux investisseurs à travers le monde afin vraiment de participer à la valorisation de notre potentiel minier. et à réitérer son engagement à vraiment garantir la sécurité de leurs investissements et de leurs personnes, ce qui reste essentiel évidemment. Donc moi je dirais que oui, cet objectif a été atteint en ce sens.
Il est dit, c'est des notoriétés publiques, que l'environnement des affaires en RDC ne permet pas aux opérateurs économiques de pouvoir travailler en toute quiétude. Et les experts comme les opérateurs économiques n'ont jamais cessé, n'est-ce pas, de suggérer au gouvernement d'améliorer ce climat des affaires. Et à ce sujet, quels sont les arguments que la RDC a utilisés devant les potentiels investisseurs, notamment en ce qui concerne les infrastructures routières, l'électricité et la situation sécuritaire?
Alors, la République démocratique du Congo se veut aujourd'hui une terre d'opportunités pour les investisseurs. D'ailleurs, en vue de rassurer les investisseurs dans l'exercice de leurs activités, il a été mis en place auprès du président de la République, chef de l'État, ainsi qu'au niveau du gouvernement, deux dispositifs climat des affaires afin de répertorier tous les points bloquants à aujourd'hui, tout ce qui peut encore ralentir les investissements au niveau de la République, et de permettre justement de mettre un dispositif qui prendra en charge des problématiques liées aux réformes d'une part, d'autre part aux questions préoccupantes, hein, se rapportant au milieu des affaires et pouvant influer sur le développement économique et social.
Et quels sont les facteurs qui ont été répertoriés comme étant des facteurs, n'est-ce pas, qui bloquent le développement du pays?
On ne peut pas aujourd'hui énumérer tous les facteurs, mais il y a plusieurs réformes déjà à mettre en place au niveau du gouvernement qui sont en cours, avec une feuille de route qui traduit en assignation pour plusieurs ministères l'exécution de ces réformes afin d'améliorer justement le climat des affaires.
Logiquement, même les experts le disent, hein, pour réformer, n'est-ce pas, l'économie de ce pays, il faut des réformes courageuses. Et depuis 3 ans, depuis que le chef de l'État est là, il n'a cessé, n'est-ce pas, de le dire dans son discours. C'est vraiment un leitmotiv. Mais, Madame Myriam, on se rend compte que dans les faits, concrètement, ces réformes ne sont pas encore initiées. Rien n'est fait concrètement.
Alors, les réformes sont initiées. Bien au contraire, elles sont en cours, elles sont nombreuses, d'importantes puisqu'on est dans le secteur minier. Le chef du gouvernement, son excellence, M. le Premier ministre, souhaite accélérer les réformes, notamment dans le secteur minier, pour justement favoriser l'émulation des opérations économiques. La République démocratique du Congo s'est engagée à mettre en place un certain nombre de conditions favorables aux investissements. Elle s'est engagée et des réformes sont en cours. Voilà.
Et les investisseurs qui ont, les potentiels investisseurs qui peuvent avoir été convaincus par les discours de la RDC en Afrique du Sud, comment vous comptez travailler avec eux? Vous comptez travailler avec eux avec les mêmes règles des jeux ou vous allez leur proposer d'autres contrats? Et on qualifie souvent les contrats que nous signons, n'est-ce pas, dans ce secteur minier comme étant des contrats léonais qui ne profitent pas au pays. Vous les maintenez ou vous allez proposer une autre approche, Madame Myriam Amena?
Je vais juste résumer ça en disant le peuple d'abord. Ça, c'est quand même les mots qui doivent être en tête. Il est évidemment essentiel aujourd'hui que tous les contrats miniers ou dans d'autres secteurs puissent permettre à la population d'améliorer leurs conditions de vie, permettre aux gens de trouver un emploi. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'une part, certes, rassurer les opérateurs économiques, les inviter dans des partenariats gagnant-gagnant, afin que tout le monde puisse trouver un climat favorable, un climat d'affaires vraiment prospère, si je puis dire. Voilà.
Le Premier ministre Samalou Kondé a déclaré que la RDC s'est engagée dans une approche de gestion efficace de ses ressources naturelles, et cela en intégrant, n'est-ce pas, la dimension de développement et transformation locale des minerais. Dans les faits, qu'est-ce qui est envisagé pour tenir cet engagement quand on se rappelle que le gouvernement n'a pas assez, n'est-ce pas, investi dans l'industrie en général, et en particulier dans l'industrie minière? C'est comme, par exemple, il n'y a pas de fonderie, n'est-ce pas, pour transformer localement ces minerais.
Alors, moi, je dirais que il y a un travail qui va dans ce sens, l'organisation et l'exploitation notamment du travail artisanal aujourd'hui. La promotion de l'industrie locale, elle est en cours. Les choses ne se font pas en un jour, mais il y a un processus qui est en cours, notamment au niveau du ministère des Mines, et je pense qu'ils seront mieux équipés pour répondre à ces problématiques dans le détail, puisqu'encore une fois, je vous rappelle, moi, je suis vraiment concentrée sur la question de l'amélioration enfin, d'une part du climat des affaires, de la gouvernance du secteur. Et il est évident qu'il y a énormément, comme je vous le disais tout à l'heure, de réformes qui sont en cours pour justement permettre d'atteindre cet objectif de la transformation locale.
Merci Madame Myriam Amena, on vous garde encore dans cette émission. John Sana Kanyuni, vous êtes vice-président de la Chambre des Mines à la Fédération des Entreprises du Congo FEC en sigle. Quel est l'essence que vous donnez au forum d'Indaba Mining?
Merci beaucoup Monsieur Maté. Je voudrais d'abord vous confirmer que Indaba est le rendez-vous le plus important pour tout le minier et particulièrement pour la RDC. Comme vous le savez, nous sommes un grand pays minier. Et cela fait pratiquement des ans qu'on n'avait pas été à Indaba. On a eu l'opportunité d'y être juste quelques jours avant que la pandémie de Covid ne puisse affecter pratiquement le monde entier. Donc voilà, pour nous, c'était très important de retourner à Indaba, faire le point des avancées de l'industrie minière. Et Indaba a aussi l'avantage d'être un forum où on ne trouve pas uniquement des miniers. On trouve des gens qui sont dans la recherche, on trouve la société civile, on trouve des gouvernements respectifs, des pays qui sont essentiellement miniers, mais on trouve aussi des banquiers. Donc c'est une opportunité en dehors quelques jours, quatre jours de travail pour faire les points par rapport à tout le reste. Maintenant, si vous voulez qu'on parle un peu de la RDC, on pourra peut-être y revenir en donnant notre lecture.
Voilà, vous êtes opérateur économique, membre de la FEC, et vous venez d'écouter la conseillère principale en charge du climat des affaires à la primature. Comment vous réagissez à ces propos?
Alors, moi, j'aimerais d'abord, avant peut-être que je ne puisse réagir aux propos de madame qui travaille étroitement avec le Premier ministre, qu'on ait d'ailleurs le privilège aussi de rencontrer. La Chambre des Mines de la Fédération des Entreprises du Congo avait eu le privilège d'être ici par le Premier ministre et nous avons eu une séance de travail et certaines questions avaient déjà été pratiquement évoquées. Donc, je voudrais d'abord donner un petit tableau, si vous me le permettez, dans quelques minutes des travaux de notre industrie minière est pratiquement la locomotive de notre économie. On a une obligation de la prendre avec, comme on dit, avec beaucoup d'attention pour voir un peu comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. C'est elle pratiquement qui est le moteur de la croissance économique du pays. Quand même on débat avec notre gouvernement, on dit oui, nous avons eu l'avantage cette année que ce soit une année particulière, depuis pratiquement la fin de l'année dernière, où on a l'embellie qui est assez riche en termes des coûts ou des tendances du marché qui ont explosé. Ça a été quand même, depuis la fin de la pandémie, une opportunité unique. Alors, moi, je voudrais vous donner quelques chiffres. Je voudrais d'abord poser un petit tableau de ce que représente notre industrie. Quelle est la contribution ou les tendances de production pour les métaux les plus importants au pays? Et pour les cuivres, en 2020, on a été au-delà de 1 600 tonnes. Pour les cobalt, en 2020, on a fait plus de 102 tonnes. Pour l'or, on a fait plus de 25 tonnes. Pour les cuivres, en 2021, on est allé au-delà de 1 700 000. Et pour les cobalt, on est passé pratiquement, on était dans la même fourchette de plus ou moins 101 tonnes. Et pour l'or, au-delà de 25 tonnes. Maintenant, si on regarde un peu ce que ça représente, le plus important, c'est de savoir un peu ce que ces mines, quelle est la contribution de ces mines par rapport à notre pays. On constate effectivement que les revenus qui ont été générés par notre gouvernement depuis pratiquement 2019, en termes de milliards, viennent essentiellement du secteur minier. Je peux vous donner quelques chiffres. En 2018, plus de 2 milliards 700. En 2019, plus de 2 milliards 400. Presque 2 milliards 500. En 2020, du fait de la pandémie, on s'est retrouvé plus ou moins dans une fourchette de 736 millions. Bon, je vous donne les chiffres les plus récents pour que ça vous donne juste une idée. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention qu'on a fait des chiffres records en termes des revenus collectés par la Direction générale des impôts. On a parlé de plus d'1 500 000. Je peux vous dire que plus de 50% de ces montants-là viennent uniquement du secteur minier.
Vous avez évoqué un certain nombre de chiffres. Hein. Oui. Il y a de cela quelques années, le gouvernement avait exigé aux opérateurs économiques que vous êtes, n'est-ce pas, de pouvoir rapatrier 40% de leurs devises au pays. Et aujourd'hui, ce n'est plus 40%, on parle maintenant de 60%. Et qu'est-ce que vous, opérateurs économiques, vous demandez en contrepartie, n'est-ce pas, de cette exigence au gouvernement? Parce qu'il est dit que les devises sont rapatriées, beaucoup de devises, mais la manière dont ces devises sont utilisées, cela ne semble pas vous arranger, vous, opérateurs économiques.
Alors, là, peut-être que vous touchez à une question qui est pertinente pour nous, c'est la question de la TVA, hein, puisque nous avons même payé la TVA au gouvernement, que les gouvernements ne nous payent pas encore, quoi. C'est même l'une des questions qu'on avait soulevées quand on a eu l'opportunité de rencontrer le Premier ministre à Cape Town en marge d'Indaba. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que cette embellie, cette croissance que nous avons, elle est surtout du fait des mines qui aujourd'hui ont atteint des pics par rapport au marché international. C'est pour ça que nous poussons toujours, on dit toujours au gouvernement, si nous voulons que ça soit durable en termes de durabilité, nous devons engager davantage des réformes structurelles qui puissent permettre aussi à ce que notre économie, que ce soit une économie qui soit diversifiée, que ce ne soit pas une économie qui est tributaire exclusivement des mines. C'est ça la grande faiblesse que nous avons, parce qu'il suffit qu'il y ait un choc exogène qui ne dépend pas de nous, c'est toute l'économie qui chancelle. Alors, la grande difficulté que nous avons, c'est aussi le respect même de la loi qui nous dirige, la loi minière, qui est notre code minier. On a un code minier qui est très clair, qui est limpide, qui est exclusif. Ce qui n'est pas reconnu par les codes miniers dans son volet fiscalité ne devait pas être payé. Mais la réalité aujourd'hui est qu'on a une parafiscalité qui plombe pratiquement toute l'industrie minière et qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. Ça, c'est la grande difficulté. On l'a soulevé dernièrement avec le Premier ministre. On espère qu'on aura encore l'opportunité peut-être de rentrer en détail avec lui ici au pays pour lui dire voilà les vrais défis que nous avons. Et en dehors de cette parafiscalité qui plombe l'industrie minière, y compris la TVA, on a d'autres grands défis majeurs. Les infrastructures. On a malheureusement une fâcheuse tendance à regarder les mines par rapport au prisme du Grand Katanga. Je peux vous rassurer aujourd'hui que nous avons un potentiel qui dépasse même ce qu'il y a au Katanga dans d'autres provinces. Nous avons Barrick qui a pris un risque énorme, qui a fait des recherches, qui a découvert des gisements. Aujourd'hui, Barrick est dans la cour des grands grâce aussi à la mine qu'ils ont pu acquérir en RDC.
Voilà, je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas voulu répondre. Les devises importantes que vous rapatriez au pays, et qu'est-ce que vous demandez comme contrepartie par rapport à ces devises? Parce que on dit que beaucoup d'argent arrive maintenant, c'est plein dans nos banques ici, mais ces devises-là, telles qu'elles sont utilisées, ça n'arrange pas vous, opérateur économique.
Ça nous pose de vrais problèmes, parce que si vous voyez vous-même ce qu'il y a aujourd'hui, même parlons même de notre banque centrale qui est atteint des chiffres records, c'est aussi le résultat de toute cette embellie au niveau des cours. On est en train de discuter avec les gouvernements pour voir un peu comment est-ce qu'effectivement les 60% que nous rapatrions par rapport au code minier puissent nous permettre peut-être d'investir davantage dans d'autres projets, ou puissent permettre aussi, au-delà de ça aussi, que les mines qui ont investi soient payées. Et c'est des gens des discussions qui sont souvent assez houleuses avec les gouvernements. On n'arrive pas toujours à s'accorder, mais on espère qu'avec la passerelle des communications qu'il y a entre nous, le secteur privé et le public, on pourra trouver des voies de solution.
Et vous, en tant que membre de la FEC, que pensez-vous du processus des révisions des contrats dans ces secteurs?
Alors, on voudrait d'abord dire quelque chose. Vous savez, c'est bien qu'on puisse réviser là où ça pose problème. On travaille, moi j'ai eu le privilège de travailler étroitement avec la société civile sur ces questions, effectivement, de gouvernance. Là où ça pose des problèmes, effectivement, il faut réviser. On a suivi par rapport à des contrats comme Ventora et tout ça, et on a été aussi heureux de voir que celui qui était le détenteur même de ces titres-là se soit mis dans les bonnes dispositions pour négocier avec le gouvernement. Oui, mais il faut éviter aussi qu'on donne une l'impression qu'on est un pays qui crée l'insécurité juridique. Il ne faut pas réviser pour réviser, il faut réviser là où effectivement on trouve que ça pose problème. Mais je voudrais insister sur un fait qui est notre lecture, nous, comme opérateurs miniers. Notre industrie ne pourra pas aller de l'avant s'il n'arrive pas à pallier au déficit des infrastructures, notamment les routes et l'énergie. Aujourd'hui, rien que pour les sociétés minières dans l'espace Grand Katanga, elles sont en déficit de plus de 1000 MW. Donc si on n'investit pas là-bas, l'ambition qu'on a même d'aller de l'avant, on ne pourra pas y arriver.
Et nous avons dans cette émission la conseillère, n'est-ce pas, en charge du climat des affaires et de la primature. Je crois qu'elle va réagir à vos propos. Monsieur Jean-Pierre Okenda, l'OEC, vous êtes directeur des industries extractives au sein de l'ONG International Resources Matters et expert analyste sur les questions des mines en RDC. Vous, en tant que membre de la société civile, qu'attendez-vous, n'est-ce pas, des rencontres telles que celle d'Indaba Mining?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Je crois que Indaba, c'est une vitrine, des rendez-vous très très importants pour le secteur minier au Congo. Comme l'a dit monsieur John, que je salue à mon ami, que je salue à passant, et aussi tel que l'a décrit madame, c'est une opportunité, une vitrine pour le pays, à vocation minière comme la RDC, vont justement quand même présenter les opportunités d'affaires à tous ces hommes d'affaires qui viennent à Indaba. En dehors des questions formelles et discours formels, il y a tout un temps de rendez-vous. Bref, donc, comme je l'ai dit, Indaba, c'est une vitrine. Mais parce que vous avez posé, permettez que j'aborde là, vous avez posé la question de savoir à madame, est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint, qu'on a eu des investisseurs, qu'on a convaincu les gens. Écoutez, bon, ça reste une vitrine tout à fait. Le plus déterminant, parce que la décision d'investir dans un pays n'est pas uniquement liée à un seul facteur. Il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne des comptes pour amener un investisseur à décider d'investir dans un pays ou pas. Et parmi ces facteurs-là, il y en a qui sont déjà évoqués, tout à l'heure, la farm zone. Il faut parler un peu, par exemple, des questions de coûts liés justement quand même pas à, donc, aux infrastructures. Est-ce qu'il y a des infrastructures dans le pays ou pas? Est-ce que, il y a cela? Mais également, moi, bon, ce que je voulais est donc beaucoup plus mettre ici à, donc, en exergue ici, c'est la gouvernance. Et madame est revenue sur la question de gouvernance également plusieurs fois. Et donc, on regarde finalement quand même à la façon dont le secteur est géré. Et quand on parle de la gouvernance, on parle de la problématique, on parle de la transparence, on parle également quand même de traitement réservé à tous les investisseurs et pas assurer qu'on a de règles communes à tout le monde. Donc on parle de toutes ces questions-là.
Est-ce que vous pensez qu'au stade actuel, la RDC a assez d'arguments pour convaincre les potentiels investisseurs dans les secteurs miniers?
Pour être franc avec vous, je vais vous dire que pour moi, il n'y a qu'un seul facteur qui peut faire qu'un investisseur vienne en Congo. C'est tout simplement quand même le fait que nous avons des bureaux qui sont stratégiques au Congo. Typiquement, c'est là, on parle de la géologie de la RDC, qui est une bonne géologie avec des ténères de qualité. Donc, en dehors de ce facteur-là, franchement, il pourrait connaître qu'on n'a pas une bonne réputation en matière de climat d'affaires. Vous n'avez qu'à voir. Les indices de transparence, il y en a plusieurs, j'en peux citer tout simplement deux. C'est vraiment le profil de la RDC. Donc, je vais citer, par exemple, l'indice Transparent International, qui est en train de faire ça, Doing Business, qui est là. Je peux citer même l'autre indice développé par Energy avec l'indice de gouvernance de ressources naturelles. Vous avez des indicateurs qui, réellement, sont le profil de la RDC. Et je voulais insister sur ça. Quand on parle des climats d'affaires, quand on parle de l'environnement, il faut savoir que des investisseurs ont pas mal d'éléments qui étalent ce que nous sommes en termes de réputation. Et donc, comme je l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, il faut beaucoup travailler. J'ai entendu parler quand même qu'on va engager des réformes, mais il faut reconnaître vraiment que la RDC, pour le moment, en dehors, c'est justement en dehors justement ces niveaux stratégiques-là, notre pays n'est pas assez bien positionné pour attirer davantage d'investissements chez nos pays.
Monsieur Jean-Pierre Okenda, que répondez-vous à cette opinion selon laquelle le gouvernement congolais devrait commencer d'abord par produire une cartographie de ces minerais et produire des statistiques sur les estimations réelles de son patrimoine minier, parce que on se rend compte que nous sommes dans une position de faiblesse quand on n'arrive pas à dire à nos partenaires ce que nous détenons effectivement.
Merci beaucoup. Permettez-moi de dire, monsieur, parce que c'est une question assez intéressante. Vous l'avez posée pour comprendre, monsieur John a donné un peu les statistiques des secteurs miniers. Il a ses stratégies pour nous, bien évidemment. La contribution reste de l'État. Il faut dire que si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte quand même que le pays ne bénéficie pas suffisamment. Nous ne collectons pas suffisamment pour des facteurs qui sont divers. Je suis d'accord, beaucoup de facteurs. Mais je vais épingler un, peu qui se rapproche à la question qui est posée. Nous n'avons vraiment pas quand même une bonne politique minière. Nous n'en avons pas. Nous marquons ce que nous appelons la fondation. Il faut la fondation. C'est-à-dire que nous devons avoir une politique minière qui est assez articulée et qui est en réalité élaborée à la suite d'une analyse assez systématique de ce que nous sommes comme valeur comparable par rapport aux autres pays producteurs, mais aussi qui met l'accent sur les défis. Et pas seulement les défis, les opportunités, mais aussi sur le risque. Donc ça nous permet en quelque sorte, et boussole, on sait qu'en dehors de quelle échéance, nous allons peut-être quitter de telle étape de l'autre. Par exemple, on parle de la question généralement de chaîne de valeur intégrée, par exemple. Je prends juste ça. Donc on doit savoir en disant qu'au niveau de la RDC, dans telle filière, si on est dans l'or, si on est par exemple dans la filière qui cobaltifère, on doit savoir quand même que voici notre défi. Voici l'opportunité, voici ce qu'on va faire. Et ça doit se faire à terme d'une période bien indiquée, de telle sorte qu'on a mesure non seulement de travailler, mais aussi d'évaluer si on a essayé de faire des progrès ou pas. Mais sur ça, il n'y a pas. Je crois quand même que quand on va parler de réforme-là, je crois que ça, c'est très important. Maintenant, ça nous ramène la question d'avoir la valeur de ce que nous avons commencé, de rentrer dans ce cadre-là. Rentre dans le cadre de l'élaboration d'une politique bien articulée. C'est-à-dire quoi? On regarde, on se dit, oui,
C'est quoi le défi pour nous? Et le défi, qu'est-ce qui nous fait manquer? Quelle opportunité? Nous sommes un bon pays, nous sommes un pays à vocation minière. Nous avons un bon jugement, qu'on sort. Mais c'est quoi le défi? Un des défis, on dira, écoutez, ben, on n'a pas la connaissance en réalité de ce que nous avons. Puisque nous n'avons pas la connaissance, de manière générale, même quand on signe les contrats, je vais parler des contrats signés entre les sociétés d'État et les investisseurs qui viennent, on ne connaît toujours pas la valeur des réserves. Ça, c'est un défi pour un pays. Et à ce moment-là, quand même, on cherche une solution, on met en place une solution pour devoir quand même quoi résoudre. Je suis tout à fait d'accord. Il est extrêmement important d'améliorer la connaissance que nous avons comme réserves géologiques pour devoir prétendre justement quand même engager de manière assez équitable avec des investisseurs qui viennent chez
nous. Merci. Nous abordons la deuxième partie de l'émission. Quelles pourraient peut-être les retombées d'Indaba Mining sur l'économie congolaise? La 25e édition, n'est-ce pas, d'Indaba Mining sur l'économie congolaise. Madame Myriam Amena, vous avez suivi les interventions de Monsieur John Kanyoni et les interventions de Monsieur Jean-Pierre Okenda. Vous allez réagir à cela. Mais l'opinion voudrait savoir c'est quoi les retombées. Peut-être qu'on ne peut pas les quantifier aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut prévoir, on peut dire que d'ici quelques années, voilà ce que l'économie congolaise pourrait bénéficier du forum qui s'est tenu récemment à Cape Town?
Alors, effectivement, je vous remercie pour la question. On ne peut pas se lancer avec un outil de mesure pour exactement évaluer les retombées d'un forum comme celui-là. Comme le disait tout à l'heure monsieur qui venait juste de s'exprimer, sur la, c'est une vitrine effectivement et c'est un lieu de rencontre au sein duquel on peut effectivement faire valoir le potentiel de notre pays, donner cette nouvelle vision du chef de l'État au travers de voilà, qui est mise en œuvre par son excellence monsieur le Premier ministre. Moi, je pense que les perspectives, en tout cas, sont reluisantes. Dans le secteur minier, on a beaucoup de potentiel. Effectivement, il y a encore de nombreux défis, comme ceux qui ont été soulignés tout à l'heure par monsieur John Kanyoni, notamment au niveau des infrastructures, de l'énergie. Son excellence monsieur le Premier ministre en a fait part, d'ailleurs, lors d'Indaba, on a même mentionné ces difficultés-là, ou ces défis en tout cas à relever au sein de lors de son discours. Il est évident qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on a de toute façon cette possibilité de continuer, parce qu'on ne peut pas faire sans la République démocratique du Congo aujourd'hui. On est quand même voilà, le pays incontournable aussi au niveau de la transition énergétique. Donc on est au rendez-vous, les réformes sont en cours, le dialogue public-privé est en place. Il ne faut pas oublier hein, que voilà, on a la chance aussi d'avoir un premier ministre qui était à la tête de la GTMI il n'y a pas si longtemps que ça, donc il connaît parfaitement le problème que rencontrent les opérateurs de l'industrie minière. Et pour ce faire, il souhaite vraiment faciliter les investissements dans ce domaine qui est aujourd'hui le secteur qui porte notre économie et qu'il faut donc accompagner pour aller encore de l'avant.
Oui, vous avez suivi, Monsieur John Kanyoni, les opérateurs économiques sont gênés par cette question des parafiscalités. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez rassurer, n'est-ce pas, les opérateurs économiques que cette question va trouver une solution? Parce que là, on est dans un processus, n'est-ce pas, de séduction. Il faut poser des actes qui peuvent pousser, n'est-ce pas, ceux qui sont à l'extérieur, de se dire, là, maintenant, les conditions sont réunies, on peut y aller.
Effectivement, je pense que c'est son essence, monsieur le Premier ministre, qui a eu plaisir à rencontrer les membres de l'AFEC à l'occasion d'Indaba, et avec qui il y a eu des échanges, je pense, très intéressants. Il est évident que tous les problèmes qui sont rencontrés, notamment dans l'application du code minier, certains diront qu'il y a une certaine violation au niveau de cette application, eh bien, les problèmes sont entendus et je pense que les solutions doivent émerger de ça et son excellence, monsieur le Premier ministre, a pris en considération toutes ces problématiques et fera, je pense, avec les ministres sectoriels, le nécessaire pour justement améliorer et rencontrer les préoccupations des opérateurs dans le secteur minier.
Merci, monsieur John Nsana Kanyoni. Pour que Indaba puisse avoir un impact réel sur l'économie de la RDC, vous avez évoqué un certain nombre de réformes. Quelles sont ces réformes-là?
Alors, la première, c'est les réformes par rapport à la fiscalité et la parafiscalité. Parce que je voudrais être très clair. Si on fait une analyse froide des 10 dernières années, on n'a pas eu de gros investissements dans le secteur minier. Il n'y en a pas eu. On a eu des gens, des traders qui ont, sur le marché international, vendu des actifs miniers à gauche, à droite, mais des vrais opérateurs miniers qui sont venus, il n'y en a pas eu.
C'est à cause de la fiscalité, de la
parafiscalité. Et la parafiscalité, effectivement. Donc, de ce côté-là, nous pensons qu'il faut vraiment répondre à ces questions-là. Je suis revenu sur les questions des potentiels d'autres provinces, en dehors de la grande province, l'ex-province du Katanga. Il faut qu'on investisse impérativement dans les infrastructures. Nous avons signé un protocole d'accord avec la République serbe de la Zambie. Mais je peux vous dire, si nous étions dans une bonne approche, on avait une certaine autosuffisance en desserte énergétique, on n'aurait pas nécessairement pu traverser de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé d'investir, ce qui est une bonne chose en soi, dans un bloc régional.
Cette mutualisation des forces.
Des forces, ce qui est une très bonne chose. D'ailleurs, notre ministre de l'Industrie était même encore en Suisse, là, pour parler de ces questions-là. C'est des questions qui sont tellement importantes, où la région peut jouer un rôle déterminant, mais pour qu'il y ait davantage d'autres qui viennent, il faut effectivement que les cadres soient assainis, impérativement.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, parce que notre énergie, c'est une énergie qui est utilisée pour l'usage domestique, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions produire, n'est-ce pas, de l'électricité qui puisse être utilisée dans l'industrie pour produire notamment les minerais et transformer ces minerais?
Moi-même qui vous parle avec toute humilité, je suis en train de travailler sur un projet de 117 MW dans les Lualaba pour répondre effectivement aux besoins de miniers. J'ai un autre frère qui s'appelle Eric Monga, il est en train de faire 150. Ici à Kinshasa, un de nos frères est en train de faire aussi 150. Si nous, comme privés congolais, on arrive à mettre pratiquement tous nos projets en place, et c'est d'ailleurs une des demandes qu'on a faites aussi au Premier ministre, on lui a dit, voilà, pour que nous puissions répondre à ces besoins-là, il faut que les miniers puissent nous donner aussi, comme on dit, des contrats, ce qu'on appelle des PPA, Purchasing Power Agreement. Si on ne l'a pas, il faut qu'il y ait une volonté aussi politique, aussi soutenue, pour soutenir un PC qui prenne des risques. C'est des projets en centaines de millions de dollars. Si on n'a pas un appui qui est très clair en termes de volonté politique du gouvernement à nous accompagner, on va continuer à tourner en rond.
Monsieur Jean-Pierre Okenda, nous allons donner maintenant la possibilité aux nombreux auditeurs qui sont en train de nous appeler, n'est-ce pas, pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Et là, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Mambasa, la province de l'Ituri.
On s'est actuellement à territoire de Mambasa, province de l'Ituri. Je pense que le Premier ministre a participé à ce forum a marqué l'occasion de faire un état des lieux général du secteur minier de la République démocratique du Congo et ses énormes potentiels. La réalité du secteur minier congolais est celle que le gouvernement ne maîtrise pas les statistiques de production de tous les minerais qui regorgent le pays. Les autorités congolaises font que réciter à la longueur des années les potentiels miniers de la République démocratique du Congo, mais ça, pour autant dire, le revenu induit de ces derniers. Enfin, je pense que le gouvernement congolais doit pouvoir tout mettre en œuvre pour la transformation de ces ressources minières pour booster l'économie nationale et pour malheureusement qui sont exportées en état brut.
Monsieur Jean-Pierre Okenda, vous avez relevé déjà cet aspect des choses, mais est-ce qu'il y a possibilité de répondre à l'auditeur qui vient de vous poser cette question?
Merci beaucoup. Je vais commencer par là où il a terminé, sur la question de la consommation locale de minerais pour y ajouter une valeur locale. Sur cette question-là, oui, je pense que, en fait, ce que l'auditeur est en train de dire, c'est tout à fait important, indispensable, c'est même essentiel. La réalité, c'est que la manière dont nous pratiquons notre économie minière actuellement en RDC, c'est une économie de la pauvreté, si vous voulez, de la cueillette. La manière dont la pratique, donc, en tout cas, quoi, jusqu'à présent, c'est la cueillette que nous sommes en train de faire. C'est ce qu'on appelle généralement l'économie rentière. Nous sommes entrés là pour un peu piocher des taxes et qu'on sort tout ça. Ça nécessairement vraiment commencé à une stratégie beaucoup plus globale, donc à ce qu'on appelle des approches et des valeurs intégrées, pour permettre en fait que le pays puisse, à des niveaux, donc en amont, c'est-à-dire en amont même de la chaîne, que nous puissions avoir une part importante, tout ce qui est tout ce qui est les dépenses ou les coûts opérationnels. Donc tout cela, nous devons avoir une politique pour essayer
quoi, de capter cela. Donc, tout ce qui est donc exportation des traits, qu'on sort tout ça, il faut travailler beaucoup pour assurer quand même que qu'il ait autant que possible des biens et des services qui sont achetés donc au niveau du pays ou auprès des opérateurs nationaux. Ça, c'est indispensable. Je vais par exemple un peu illustrer cela. Par exemple, je vis en 2019, par exemple, j'ai constaté quand même que le secteur donc mini au Ghana, donc localement, a pu finalement en termes de biens et des services achetés localement, ils sont arrivés jusqu'à capter jusqu'à 70% des dépenses opérationnelles des compagnies minières. C'est tout à fait énorme. Voyez-vous un peu ça. Donc ça c'est par rapport je parle justement quand même quoi en aval, mais aussi en amont, j'ai parlé, mais aussi en aval, comme dit notre auditeur, on doit assurer quand même que nous puissions être à mesure de mettre en place toutes ces stratégies qui nous permettent. Mais une fois de plus encore, le Premier ministre l'a dit également, que la RDC, il y a quand même cette volonté exprimée d'aller vers des chaînes beaucoup plus intégrées. Mais malheureusement, il faut le dire quand même que ça fait des années qu'on parle, qu'on discute de ça. C'est pas la première fois des officiels congolais, hein, donc affichent cette ambition-là, mais on a toujours vraiment du mal à matérialiser cela. Donc, il y a beaucoup de concepts sur lesquels il faut travailler. Et il faut clairement, moi je me dis, il faut clairement qu'on arrive à mettre des étapes clés. On peut savoir des étapes clés entre chacun. Voici notre problème, voici notre ambition. C'est que nous voulons être, nous, RDC, par rapport à la région ou par rapport au monde. Voici nos concurrents potentiels. Voici là où nous voulons quand même vraiment montrer notre valeur. Et à ce moment-là, quand même, on met les échéances en disant d'ici 2-3 ans, nous serons en train de faire ceci. Et donc, pour moi, ça c'est important. Ensuite, rapidement, par rapport à ce qui a eu les statistiques de production, qui ne maîtrise pas, la RDC ne maîtrise pas. Je crois quand même qu'il faut relativiser cela. Et ça varie à fonction des filières, ça varie à fonction des régions. On sait donc, M. John, pour financer, parce qu'il est mon opérateur, on sait quand même qu'il y a quand même des régions où ça pose problème.
Merci, on vous a compris. Hein. On va vous donner la parole. Madame Myriam Mamena, vous allez aussi réagir à la réflexion d'un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi, dans les Haut-Katanga.
Patrick Azadi, depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Je salue pour ma part la participation de mon pays à ce forum minier, Indaba Mining à Cape Town, et les mots du Premier ministre sont justes et valent. Cela au regard du potentiel minier qui regorge les sous-sols congolais dans son ensemble, et surtout pour ce qui est des minéraux de transition énergétique, notamment le cobalt et le lithium. Cependant, la grande épine dans le pied de l'économie congolaise a toujours été l'appropriation de ses richesses. Nous n'avons pas la maîtrise de nos richesses, et je l'ai dit en tant que géologue formé à l'université de Lubumbashi. À l'heure actuelle, le gouvernement congolais ne peut pas nous dire avec exactitude et quantifier les réserves de son sous-sol en cobalt et lithium pour ne citer que ceci.
Madame Myriam Mamena, c'est la même préoccupation qui revient. Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
Ce que je peux répondre, d'une part, je remercie l'auditeur pour ses préoccupations, et notamment vu qu'il est dans le domaine de la recherche géologique. Il se trouve qu'il y a effectivement, son excellence, monsieur le Premier ministre, a fait part du plan stratégique national d'exploration et de certification des réserves minérales. Qui porte sur l'ensemble du territoire national, qui a été élaboré. Et l'idée, évidemment, c'est d'accentuer les recherches géologiques et au niveau de tout le territoire. Donc, qu'on ne connaisse pas l'exactitude de tout le potentiel qui est le nôtre, c'est évident que c'est le cas aujourd'hui. Toutefois, je pense que il y a un travail qui est fait en ce sens pour justement avoir une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance dans le domaine.
Merci, Monsieur John Nsana Kanyoni. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu au sud Kivu. Le forum Indaba Mining tenu récemment en Afrique du Sud et auquel a pris part le Premier ministre Sama Lukonde est une bonne chose pour la RDC dans la mesure où il constitue une autre opportunité sûre à saisir pour son décollage. Je pense que, en voulant intégrer la dimension de développement et transformation locale des minéraux, la RDC pourrait voir ses produits miniers obtenir une valeur ajoutée et être compétitif sur les marchés internationaux. Et sur le plan national, cette action contribuerait à la résorption du chômage qui gangrène la vie socio-économique des populations congolaises. Mais tout ceci n'est possible que pourvu que la volonté politique du gouvernement congolais de développer réellement le secteur minier soit là.
Monsieur John Cagnoni.
Oui, je partage un peu l'avis de Monsieur Robert Bahomé pour une raison qui est simple. Nous ne devons pas être les pays qui exportent, comme on dit, les matières premières. Nous devons impérativement être un pays qui donne de la valeur ajoutée localement. C'est un must. On ne doit même pas discuter là-dessus. Maintenant, pour y arriver, on a évoqué toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour être effectivement un pays, un grand pays minier. Vous savez, on a tendance à oublier que nos mines vont s'épuiser. Il faudrait que ces mines-là, aujourd'hui, puissent aussi bénéficier aux générations futures. Et c'est ça le grand défi, la valeur ajoutée. Mon rêve, c'est de voir des grandes entreprises comme Tesla ou toutes celles qui sont de la Silicon Valley aux États-Unis de venir s'installer chez nous. Et pour qu'elles viennent, il faut qu'on fasse des réformes.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. C'est quoi votre mot de la fin?
Mon mot de la fin est qu'on est un très grand pays minier. Les mines sont la locomotive de notre économie. Les mines doivent impérativement nous aider à voir comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à développer d'autres secteurs. Aujourd'hui, on parle des mines, mais nous avons d'autres richesses. La terre, aujourd'hui, je ne voudrais pas y revenir, et nos eaux. Ce sont les enjeux de demain. Et si on ne fait pas attention, et nos eaux, et nos forêts, et nos terres seront aussi contrôlées par les autres. Il est impératif qu'effectivement, tout ce que nous avons comme richesse à travers les mines puisse développer d'autres sous-secteurs. Merci beaucoup.
Merci, M. Jean-Pierre Okenda. Votre conclusion?
Merci beaucoup. Je dirais également qu'il y a une grosse opportunité pour la RDC avec la demande des minéraux stratégiques et d'or. Nous disposons suffisamment avec le cobalt et les lithium. Il y a là une opportunité. Mais quand on parle d'une opportunité, il faut aussi qu'on comprenne qu'à côté de l'opportunité, il y a des défis et des risques. Et donc, il faut davantage de réformes pour éviter que nous ne puissions pas arriver à une situation d'opportunité manquée. Il faut des réformes fondamentales sur la question de transparence, de gouvernance, de corruption. Là, il faut vraiment faire assez d'efforts pour essayer d'attirer davantage d'investissements, autant que d'autres facteurs évoqués par M. Jones. Merci.
Merci. Madame Myriam Amena, votre conclusion?
Ce dont je peux faire part aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle volonté politique. Elle est là, elle est au rendez-vous pour, d'une part, accompagner le secteur, continue à accompagner le développement du secteur minier, qui contribue certainement à l'économie nationale, mais aussi il y a cette phrase qu'il faut retenir, qui a été citée par le chef de l'État, le président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol. La question de la diversification de l'économie, comme l'a cité tout à l'heure M. John Cagnoni, reste également au cœur des préoccupations. Et INDABA 2022 a été un très beau rendez-vous. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de voir toutes les mille actions qu'il y avait autour du secteur, les différentes secteurs de l'économie qui pouvaient se rencontrer. Les perspectives sont là, les réformes sont en cours. Et je pense qu'on pourra mesurer en tout cas l'impact de la participation de Son Excellence Monsieur le Premier ministre à INDABA 2022 dans les mois à venir, parce qu'effectivement les investisseurs sont là, ils sont prêts à revenir, ou en tout cas à découvrir notre pays. Ils ont des questions, on doit leur apporter des réponses, on doit leur apporter la sécurité de leurs investissements, de leurs personnes. Et ça reste, je pense, un rendez-vous qui nous a porté en tout cas vers le haut, puisque notre pays a effectivement toutes les ressources pour arriver à développer notre économie. Voilà.
Merci à Madame Myriam Amena, à M. John Sana Kanouni et à M. Jean-Pierre Okenda l'OSC d'avoir accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique, aussi à Kéline Koutedonoma Dimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision des Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Radio Capi.